Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News Podcast by Michel Robanin, une émission enregistrée sur l'antenne de Radio Cité Genève dans le cadre de l'émission Le Défi que j'animais avec plaisir il y a quelques années. Retour le 5 octobre 2011 au Geneva Country Club à Bellevue avec Marc Rosset, le champion olympique genevois, champion olympique en 1992 à Barcelone et finaliste la même année de la Coupe Davis au Texas contre les États-Unis. Marc Rosset, 48 ans aujourd'hui, directeur sportif du Bank Eric Sturza Geneva Open, est également consultant tennis sur la RTS, revient dans ce podcast sur ses regrets, ses souvenirs, ses hobbies, sans oublier d'avouer en toute fin d'émission que son héros est tout simplement son père Michel. Un bel hommage, une belle déclaration de ce sportif genevois. Mais dans l'immédiat et comme régulièrement, on commence avec cette première question. Et si cela était à recommencer, referiez-vous la même chose ?
Si c'était à refaire, bien sûr que je repartirais, parce que c'était une 17 ans de ma vie fantastique. Je veux dire, vécu des grandes émotions, des grandes joies, mais aussi des grandes tristesses. Et donc c'était une vie plus que bien remplie. Donc ouais, bien sûr, je re-signe demain pour repartir 17 ans sur le circuit.
C'est un palmarès, on l'a vu tout à l'heure, hein, et puis ça n'est qu'une partie. C'est un palmarès qui est extrêmement complet. Que vous manque-t-il pour être, j'allais dire, parfaitement heureux, mais vous n'avez pas l'air malheureux à noter.
Moi, il y a quand même certaines choses. Si j'avais pu gagner un grand chelem, ça aurait été fantastique. Gagner peut-être une médaille avec Jacob en double lors de ces Jeux Olympiques à Barcelone. Puis aussi remporter la Coupe Davis. Donc c'est sur ces trois choses-là qu'il y a un petit peu de frustration.
Qu'est-ce qui vous a manqué pour être plus fort? Là où a été peut-être le manque?
Je pense que je suis quelqu'un de trop, peut-être trop sensible, trop. Il fallait vraiment que je sois dans des bonnes conditions dans ma tête pour bien jouer au tennis, et j'étais un peu trop sensible, un peu à l'extérieur, des choses comme ça, ce qui souvent m'a joué des mauvais tours.
On a souvent dit, hein, évidemment, quand vous étiez entraîné par Stéphane Oberer, pas mal de gens vous ont reproché d'avoir peut-être continué un peu trop longtemps avec lui, qu'à un moment donné, vous auriez peut-être dû changer.
Peut-être j'aurais dû faire un peu comme a fait Stan, à savoir à un moment donné se séparer de son entraîneur de toujours, et peut-être aller chercher un entraîneur qui avait déjà l'expérience du haut niveau. Peut-être j'aurais dû effectivement, pourquoi pas après cette finale des Jeux Olympiques, peut-être me tourner vers un coach comme Georges Degnaud qui avait déjà l'expérience du très haut niveau. Peut-être qu'il aurait pu m'aider à grimper, peut-être pas. C'est toujours facile de refaire la musique après coup, mais sur le moment, peut-être, ouais, peut-être. Peut-être 22 ans, c'était un peu trop tôt pour se séparer comme ça de l'entraîneur qui vous a un peu formé, tout ça. Mais peut-être vers 25, 26 ans, j'aurais dû effectivement, pourquoi pas, tenter quelque chose d'autre.
Gros palmarès, on a dit. Marc, l'image forte, s'il devait y en avoir une comme ça, là, tac, qui vous vient à l'esprit, c'est laquelle ? Difficile ?
Bien sûr, tout le monde s'attend à ce que je dise les Jeux Olympiques. Mais étrangement, c'est pas l'image la plus forte que j'ai, parce que c'était un long match. Après, il y a la cérémonie. Après, il y a les trucs avec la télé. Après, il y a le retour au village olympique. Le lendemain, je suis à la maison. Et je repartais le jour d'après à Cincinnati, aux États-Unis, pour une longue tournée aux États-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de savourer l'instant, quoi, de savourer ce titre. Donc, je pense que mes souvenirs les plus forts sont quand même en Coupe Davis.
Marc, pour avoir la chance de vous connaître assez bien et depuis assez longtemps, j'ai un peu l'impression que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose finalement qui n'est pas très présent dans votre esprit. Vous n'aimez pas tellement en parler, ou en tout cas pas plus que ça. C'est pas forcément votre plus grande fierté. On a en tout cas cette impression.
Parce qu'encore une fois, je veux dire, quand vous jouez à un tournoi de tennis, il n'y a que cet événement-là. Quand vous jouez une Coupe Davis, il n'y a que cet événement-là. Quand vous jouez les Jeux Olympiques, il y a une multitude d'événements d'autres disciplines qui ont lieu. Et encore une fois, je veux dire, je me rappelle avoir joué un match long, difficile, avoir tout de suite fait la cérémonie, contrôle anti-doping, être parti sur les plateaux de la TSR, rentrer au village, penser déjà au rapatriement le lendemain, et puis voilà, rentrer à Genève, et le lendemain je partais aux États-Unis. Donc il y a pas ce moment où vous pouvez savourer pendant 2-3 jours ce que vous avez fait et prendre un peu conscience de l'ampleur de l'événement. Là, je veux dire, j'ai fait une journée à Genève, puis le lendemain je partais. Donc ça reste pas un moment super fort. Alors, étrangement, c'est un moment qui, pour moi, même si j'essaie de m'y concentrer dessus, j'arrive pas à me rappeler l'événement. Alors que j'ai eu des souvenirs beaucoup plus marquants en Coupe Davis, ou plus marquants sur tel et tel tournoi que j'ai pu remporter. Là, étrangement, les Jeux Olympiques, il faut que je voie vraiment les images pour me rappeler de ça, quoi.
Alors vos Jeux, on s'en rend compte, vous les avez vécus un peu rapidement. Est-ce que du même coup, vous attendez quand même avec un peu d'impatience les Jeux de 2012 ou les Jeux pour vous au tennis? D'abord, est-ce que les Jeux ont vraiment quelque chose à faire? Est-ce que le tennis plutôt a quelque chose à faire aux Jeux? C'est sa place?
Je pense que le tennis a sa place aux Jeux Olympiques. C'est clair que quand on pense aux Jeux Olympiques, la première chose à laquelle on pense, c'est l'athlétisme, le 100 mètres... La natation, quoi, tous ces sports-là qui n'ont pas forcément une grande vitrine tout au long de l'année et qui, tout d'un coup, c'est les sports phares pendant 4 ans. Maintenant, le tennis, bien sûr, il y a les grands chelems, donc les grands chelems, ça reste quand même quelque chose de super important. Maintenant, si on regarde le palmarès des champions olympiques depuis que le tennis est un sport officiel, on s'aperçoit qu'il y a Agassi, il y a Nadal, il y a quand même des jolis champions olympiques et une participation qui est présente, donc tous les meilleurs joueurs du monde y participent. Et puis, pour certains grands noms comme Federer, comme d'autres, Agassi aussi a gagné. Donc on s'aperçoit que c'est une priorité tous les 4 ans pour certains joueurs de remporter cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc du moment que vous avez les meilleurs qui participent et que c'est une grande motivation pour ces joueurs-là, je pense que le sport a tout à fait place aux Jeux Olympiques, ouais.
Vous êtes tout de même, on peut le dire, assez mystérieux comme ça, on vous voit pas beaucoup, hormis effectivement sur votre moto. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui apparaissait, en tout cas beaucoup moins que d'autres dans les journaux. On peut pas dire que vous soyez forcément tout le temps du côté des VIP. Ça, c'est une image que vous essayez de cultiver, ou vous êtes réellement comme ça, on va dire un peu sauvage, un peu à part?
Non, c'est pas une image que je cultive ou quoi que ce soit. Pour mon bien-être à moi, j'ai besoin de côtoyer toutes sortes de gens. J'adore le luxe, je veux dire, je vais pas m'en cacher, j'aime l'argent comme tout le monde. J'aime être dans des beaux hôtels, j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi qui ont des conditions de vie fantastiques qui m'en font profiter, et j'adore ça, je vais pas m'en cacher. Là, je suis rentré de vacances, j'étais dans des conditions 15 étoiles, on va dire. Et puis d'un autre côté, j'aime aller manger un sandwich libanais au Paquis. J'aime aller boire une bière avec mes copains motards. J'aime manger un hot dog et aller voir un match de hockey. Et si j'ai que ça, je suis pas heureux. Puis si j'ai que le côté bling bling, à un moment donné, je sature aussi. Mais j'ai besoin de ces deux mondes et j'aime bien naviguer entre les deux. Parce qu'encore une fois, moi ce que je recherche chez les gens, c'est l'amitié. C'est ce qu'ils ont à me donner, c'est ce que moi je peux leur donner, et c'est ce qu'on peut avoir en commun ensemble. Alors je peux avoir des atomes crochus avec des gens qui ont beaucoup d'argent, donc je vais pas m'en cacher non plus. Puis je peux avoir des atomes crochus avec des gens qui sont dans un milieu modeste et j'en ai pas honte non plus. Parce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on est riche qu'on pense d'une manière et qu'on a un peu moins d'argent qu'on pense d'une autre. Je veux dire, on peut avoir des atomes crochus et des points communs entre une personne qui est milliardaire puis une personne qui est pauvre, entre guillemets, on va dire. Donc moi je m'en fous un peu de ce qu'il y a autour. Ce que je recherche, c'est ce que les personnes peuvent m'apporter en termes de bien-être mental, quoi. Donc c'est pour ça que je pourrais pas faire que des soirées VIP. C'est pas un truc qui m'intéresse, parce qu'au bout d'un moment je trouve que je sature, quoi, c'est tout.
Dans vos amitiés, est-ce qu'il y a encore quelques joueurs de tennis? Est-ce que de parler régulièrement de tennis, c'est un truc qui vous fait plaisir ou au contraire qui vous gonfle, par exemple?
Je parle très peu de tennis. Et ça me... Je peux pas dire que ça me gonfle, parce que je fais le rôle de consultant de la TSR et franchement, j'y prends énormément de plaisir.
Si on veut vous faire plaisir en soirée, il faut pas forcément vous aborder avec votre titre olympique, Marc, on est d'accord?
Non, mais ça me dérange pas. Mais ce qui me gonfle, c'est, on va dire, l'homme de la rue qui va commenter la dernière défaite de Federer en disant que c'est fini parce qu'il a perdu deux fois un match, puis que 3 semaines plus tard, il gagne le tournoi. Alors il dit, ah, c'est nouveau là. J'aime discuter de tennis avec des gens qui connaissent le tennis, avec d'anciens bons joueurs, avec des gens qui connaissent ce que c'est que le tennis et qui arrivent à voir au-delà de juste un simple résultat pour faire une déduction. Ça, je peux parler encore des heures de tennis avec ça. Si demain je me retrouve avec un Georges Degnaud puis qu'on doit parler de certaines choses, on aura une discussion endiablée sur le tennis, ça me posera pas de problème. Mais des fois, les commentaires qui étaient les mêmes pour moi, hein, quand je perdais un match, c'est ce que les gens devaient dire en mangeant le plat du jour à midi. Malheureusement, maintenant, c'est moi qui mange le plat du jour avec eux, donc j'entends les mêmes choses sur un Federer ou un tel. Ouais, ça me fatigue un peu.
Vous avez parlé tout à l'heure d'amis qui pouvaient tout à fait être des avocats, des politiciens. Si on parlait justement comme ça, politique, la politique à Genève, tout simplement, qui bouge, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous allez voter, tout simplement, vous participez ou vous êtes là juste pour, j'allais presque dire, dormir?
Non, je participe pas à la vie politique et je vote pas. J'en ai pas pris l'habitude vu qu'avant j'habitais pas ici et que j'étais tout le temps à l'étranger. Maintenant, je lis pas trop les journaux sur la politique, des choses comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois moi. Et j'ai l'impression que, en tout cas sur Genève, il y a un fossé qui est en train de s'élargir entre les gens qui ont énormément d'argent, surtout les grosses sociétés étrangères qui viennent s'installer à Genève avec des salaires fantastiques. Et on va dire, le type qui avait un bon métier avant, je veux dire un type qui avait une belle situation avant, avait un accès à la propriété qui était beaucoup plus simple. Maintenant, même un type qui a une belle situation financière, je veux dire, pour se loger, ça devient extrêmement cher à Genève. Donc ça veut dire que la classe moyenne, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus pauvre que ce qu'elle était avant. Et ça, c'est toujours dangereux. Ça, c'est toujours dangereux de pas avoir une classe moyenne qui soit assez forte. Donc c'est des choses qui me préoccupent parce que des fois je suis touché par rapport à ça et je peux comprendre maintenant aussi que les gens soient un peu énervés à Genève parce que je veux dire il y a quand même un taux d'insécurité qui est un peu plus important qu'avant.
Marc, l'insécurité, j'allais y venir. Vous qui sortez, qui vivez là quand même depuis maintenant de nombreuses années, est-ce que cette insécurité, elle est perceptible pour vous?
Écoutez, moi j'étais victime d'un carjack il y a quelques années en arrière avec un flingue pointé sur ma tête, donc...
Depuis ce moment-là, ça
non, mais,
vous sortez
mais,
un peu anxieux ou...
Non, pas du tout. Mais je peux comprendre qu'effectivement, je veux dire, payer des impôts à Genève, vivre dans une ville qui est une des plus chères du monde, et si en plus le soir vous avez des problèmes quand vous sortez le soir, ça commence un peu. Je peux comprendre que les gens soient un petit peu agacés. Je veux dire, si encore vous vivez dans une vie chère, que la vie c'est pas facile tous les jours de boucler à fin de mois, puis que d'un autre côté vous avez une sécurité, que vous avez des services qui tiennent la route, on peut se dire ok, c'est le prix à payer pour vivre ici. Maintenant, s'il faut commencer à serrer les dents. Fin de chaque mois, puis qu'en plus de ça, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire voler la voiture ou attaquer dans un parking, je peux comprendre que les gens votent à droite ou qu'ils votent pour le parti là, de protection des citoyens. Je peux tout à fait comprendre ce ras-le-bol.
Aujourd'hui, on peut peut-être parler également de vos passions, hein, qui sont sportives mais hors tennis. C'est surtout le hockey. On a parlé de moto. Le hockey, évidemment, c'est plutôt en hiver. Quel regard par rapport au Genève Servette, la patinoire, changement de patinoire, la mettre ailleurs. Il y a eu aussi toute cette un petit peu polémique, hein, on peut le dire, de départ de bons joueurs qui ont été vendus. On n'a jamais vraiment bien compris pourquoi. Il y a l'attitude également de Max Orlet qui est quand même un peu, on va dire, particulière. Comment est-ce que vous...
Max Orlet, déjà, pour moi, j'aimerais dire que c'est un super entraîneur. C'est pas seulement un bon coach, c'est aussi un super entraîneur. Il fait partie de ces races d'entraîneurs-coach, comme un José Mourinho dans le foot, ou je pense à des Bob Brett dans le tennis, et Stéphane Key aussi dans le tennis, tout ça. Cette catégorie de gens qui sont capables d'aller chercher des joueurs moyens, entre guillemets, parce qu'il voit qu'il y a un potentiel énorme.
Arriver à les transcender.
Je pense à, par exemple à un De Roons qu'il avait fait venir à Genève-Servette. Donc il fait partie de ces gars-là qui, non seulement si on lui donne une équipe, est capable de faire progresser cette équipe. Donc déjà, un grand coup de chapeau à Max Orlet. Maintenant, tout ce qui est ces histoires de patinoire, tout ça, je ne suis pas au courant de tout. Donc je ne veux pas crier, dire que c'est à faute de la ville.
Non, mais pour vous, il y a besoin de la déplacer ou celle-ci réaménager pour essayer.
Non, moi je pense qu'il faudrait tout raser puis en construire une vraie. Mais je veux dire, à Genève, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent on construit des édifices qui servent à qu'une seule fonction. Je pense pas qu'on a les moyens financiers à Genève pour s'amuser à ce genre de choses. Donc, moi, je serais pour raser cet endroit, les Vernets, construire une espèce de Bercy qui serve au hockey, qui serve à une manifestation, à une Coupe Davis, qui puisse servir à un tournoi de tennis qui puisse servir à, je sais pas, à un match de volley, à un concert, à, je veux dire, quelque chose qui soit multifonctionnel, quitte à ce que ça coûte un petit peu plus cher au départ, mais au moins qu'on puisse l'utiliser pour le supercross, pour plein de choses. Mais s'il faut commencer à construire une patinoire juste pour le patin, le hockey, je veux dire, un stade de foot juste pour le foot, on n'arrive pas à faire autre chose après un truc pour le ring hockey et tout ça. On n'a pas les moyens. Genève n'est pas une ville suffisamment riche pour ça. Donc, mais je pense que on s'aperçoit que le sport à Genève, c'est plus compliqué de boucler le budget pour un club de foot ou une équipe de hockey en Ligue nationale A que trouver quelques millions pour refaire un théâtre ou quelque chose. On donne plus facilement d'argent à Genève pour l'art,
pour la culture,
pour le social, toutes ces choses-là, Mais le sport, c'est pas encore un vecteur qui est bien établi à Genève. Un peu plus en Suisse alémanique, j'ai l'impression, un peu plus à Lausanne. Maintenant, Genève, c'est encore quelque chose de tabou. Pourtant, on a eu des sportifs fantastiques. Je pense à Lingui avec Ernesto Bartali, moi ici, et après Federer, tout ça. Et je pense que les mentalités évoluent un petit peu, mais à Genève, ça reste quand même assez compliqué.
Stanislas Wawrinka, membre du conseil d'administration du LHC à Lausanne, c'est quelque chose qui pourrait vous attirer de rentrer peut-être un peu plus pleinement justement dans le Genève Servette?
Totalement.
Vous en avez déjà eu, déjà eu des contacts?
Non, mais quand j'ai lu l'article de Stan par rapport...
Ça vous a fait envie?
Ça m'a grave fait envie. Le hockey, c'est vraiment quelque chose que... c'est un sport que j'adore et j'aime suivre le championnat, j'aime discuter avec les joueurs... ça c'est clairement.
Et le foot qui est remonté en Super League, vous allez aller de temps en temps, vous suivez un petit peu l'équipe ou c'est définitivement le hockey?
Non, je suis le résultat. Mais le foot, c'est pas Servette ou un autre club. C'est juste j'ai un peu plus de problèmes à suivre le foot parce que j'aime de plus en plus les sports où ça va vite quoi. Je veux dire où chaque action est potentiellement une action de but où il se passe des choses et je sais pas si c'est le fait qu'on vit dans une société qui va de plus en plus vite qui fait que moi personnellement je veux dire le hockey, le basket, des choses comme ça, chaque fois il se passe quelque chose. Le foot j'adore, si je vois Barcelone jouer au football je prends mon pied parce que c'est un tel niveau de jeu que c'est extraordinaire. Maintenant le foot suisse j'ai un peu plus de peine quoi. Le championnat n'est pas suffisamment élevé à mon goût. Le hockey, on a quand même la chance d'avoir un des tout meilleurs championnats d'Europe. Donc il y a des joueurs incroyables. Puis bon, il se passe toujours quelque chose, quoi. Donc c'est un sport que moi, je m'excuse auprès des footeux, c'est un sport que j'adore.
Vous avez des potes qui sont au Genève Servette, vous les voyez un peu en dehors, oui?
Non, je ne vois pas en dehors, mais souvent par SMS, type comme Bézina que j'adore, avec qui j'ai de très bons contacts. J'aime. Je veux dire, là, quand on fait les stages ici au Country Club, il y a tous les joueurs qui viennent faire leur préparation physique. Donc. Permet de les voir, discuter un peu, ils adorent jouer au tennis et c'est vraiment une... Ouais, je me sens vraiment très très proche de ce club.
Le sport aussi, au niveau télévision, chez vous, chaîne sportive, vous avez tout, Canal+, Eurosport, vous rentrez chez vous, c'est branché 24 heures sur 24.
Je suis équipé, le seul truc qui m'ennuie un peu, à la fois d'une façon... De spectateurs et même d'un côté professionnel, c'est qu'avant sur Canal Plus, sur Canal Plus Sport, ils avaient tous les droits pour les Master 1000. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est sur Orange TV en France. Donc, j'ai plus du tout accès à ces tournois comme Madrid, Rome, Cincinnati, Toronto, tout ça. Ça, c'était des tournois que j'aimais beaucoup suivre. Puis surtout, ça en tant que spectateur, puis après d'un côté professionnel, ça me permettait quand même de suivre un peu les résultats, de voir un peu, je regardais quand même quelques matchs avant Roland Garros sur ces tournois-là, je pense à Madrid et à Rome, pour me faire quand même moi mon idée personnelle du niveau de jeu du gars, pas forcément juste avec un résultat. Donc ça m'aidait aussi pour commenter Roland Garros et Wimbledon, parce que j'avais pu me tenir un peu au courant, puis voir un peu, sentir un peu, voir qui était en forme. Maintenant c'est plus le cas, donc c'est un peu dommage.
L'argent, évidemment, est important. Vous en avez gagné, j'allais dire, beaucoup, en tout cas par rapport à la moyenne des gens. Aujourd'hui, avec les bourses, on le voit, hein, qui plongent, qui remontent. Qu'est-ce que Marc Rosset, avec des parents, vous l'avez dit tout à l'heure, banquier, un frère, vous continuez la bourse, vous êtes plutôt bourse, vous êtes plutôt immobilier. Que faites-vous, en résumé, de vos sous, Marc?
Rien de spécial. Non, vous savez, la bourse... C'est pas la première fois que la bourse elle se pète la gueule. J'ai 40 ans, donc la première fois que la bourse s'est cassée la gueule, je sais plus quel âge j'avais. Et je suis arrivé tout affolé vers mon père qui m'a sorti un tableau de la bourse sur les 100 dernières années. Une fois que vous avez regardé ça...
C'est cyclique.
Je veux dire, si vous n'avez pas besoin forcément de l'argent au quotidien... Et
ça remonte une fois ou l'autre.
Je veux dire, c'est cyclique. D'un coup, ça peut être positif, d'un coup, c'est négatif. Ce qu'il faut, c'est pas s'énerver. Maintenant, les gens qui s'énervent, c'est souvent les gens qui ont besoin de certaines rentrées financières de la bourse pour vivre. Donc je peux comprendre que ça les pose des problèmes, mais c'est encore une fois, je veux dire...
Mais vous veillez au grain, comme on dit, vous surveillez vous-même, ou c'est entre les mains d'un actionnaire, ou ça vous amuse même de voir, peut être un jeu.
Non, y a toujours mon père qui jette un coup d'œil, il y a mon frère qui travaille dans une banque qui gère ça, puis j'ai un rapport à l'argent qui est... C'est pas une priorité en soi, c'est clair que c'est beaucoup plus agréable d'en avoir que de serrer la ceinture chaque mois pour payer les factures.
À part les motos, les folies, c'est quoi?
Justement, j'ai un train de vie qui est simple, mais pas parce que je me prive, c'est parce que je le sens comme ça, quoi. J'ai pas besoin d'avoir 20 voitures ou Puis après, quand vous jouez au tennis, je veux dire, jamais penser à un match, tiens, là, il y a 100 000 francs en jeu sur ce match-là, ou des trucs comme ça. Pensez à gagner, vous pensez à être le meilleur, vous pensez à faire le mieux possible, et après...
On fait jamais de rapport avec l'argent. On pense non, jamais, on tennis, est en demi, on aura dans, ça, dans, en finale.
Quand on fait du sport, et plus particulièrement dans le tennis, je veux dire, vous n'avez pas de salaire. C'est pas comme un footballeur qui signe, puis il signe 250 000 euros, il est blessé, il joue pas, il joue, machin, il touche son argent. Dans le tennis, si vous jouez pas bien, vous faites pas d'argent, si vous jouez bien, vous faites de l'argent. Moi, j'ai acquis une mentalité qui, en fin de compte, c'est d'abord essayer de bien faire les choses. Et après, si tu fais bien les choses, puis que le succès est là, l'argent viendra. Donc, quand je fais les camps de tennis, j'essaie de bien faire les choses pour que ce soit un succès. Après, si les gens y viennent, forcément, on va gagner un peu d'argent avec les camps de tennis. Le Challenger, j'ai un contrat qui dépend aussi un peu du succès, je veux dire, des sponsors, des choses comme ça. Si on fait un Challenger, puis qu'on arrive à passer de 75 000 dollars à 150 000, puis que si un jour on arrive à faire un grand prix à Genève, puis de renouer avec ce qu'on a connu pour le Barclay Open, mais puis qu'on fasse quelque chose à Palais Expo avec des grands joueurs, tout ça. Si la chose est bien faite, que la formule est sexy, que les sponsors sont contents parce qu'on leur donne des prestations pour leur aide financière, tout ça, l'argent est là. Je veux dire, il faut juste faire les choses bien dans la vie. Donc moi, c'est ma ligne de conduite, je veux dire, c'est d'abord fait les choses, essayer de les faire bien, que tout le monde soit content, puis si après le succès est là, ben voilà, il y a de l'argent à faire. Mais tous les contrats que j'ai signés dans ma vie, c'était toujours lié au succès de l'histoire. Je n'ai jamais demandé un fixe ou des choses comme ça. Il y en a qui préfèrent avoir certainement un fixe, puis savoir sur quoi ils peuvent compter. Moi, je trouve plus excitant pour moi, en tout cas, de me dire, bah, moi, je suis intérêt au succès.
Un salaire au mérite, quoi, finalement.
Ce qui fait qu'il n'y a pas de limite. Parce que si votre truc cartonne à fond, ben la somme est beaucoup plus importante. Mais je préfère jouer dans ce registre-là, parce que c'est le registre que j'ai connu toute ma vie avec le tennis. Quoi. Vous gagnez Roland-Garros, faites un million et quelques d'euros, vous perdez au premier tour, faites 10 000 euros. Ça me stimule plus.
Marc, et si on parlait, on n'en parle pas beaucoup, c'est quelque chose en tout cas qui vous a eu énervé, vous êtes peut-être maintenant habitué, c'est le vrai faux blog de Marc Rosset. Alors là, on va quand même peut-être juste donner une petite explication. Ce sont des Lausannois qui ont créé, on va dire, ce vrai faux blog il y a maintenant quelques années. Et en fait, ce vrai faux blog a pour but finalement de faire croire, de faire penser que c'est vous qui écrivez directement sur ce blog en question, alors qu'à préciser que ça n'est bien évidemment pas du tout vous.
Ça m'a valu quelques déboires sur ce truc, effectivement.
Parce et là, que... ça peut être rigolo, mais jusqu'à un certain point. Bah,
c'était
peut-être.
Drôle au début, même moi ça me faisait marrer. Parce que là, il faut quand même leur reconnaître un certain talent.
Si vous êtes d'accord, j'ai juste un petit passage du dernier, c'est assez court.
Okay.
Alors, ça concerne évidemment la Coupe Davis contre le Portugal. Désolé pour le jeu de mots foireux, on va mettre ça sur le compte du soleil. Voilà, c'était écrit dans le marbre, la Suisse n'a fait qu'une bouchée d'une valeureuse mais bien limitée équipe du Portugal. Comme on dit, les poilus se sont donné de la peine et en ont eu. Enfin, en double surtout, où les deux joueurs étaient aussi à l'aise à la volée que Daniel Brella dans une auto-tamponneuse. Bon, ça c'est cool, ça c'est rigolo, Marc.
Non mais bon, on va faire historiquement. le truc a commencé. Tout le monde m'a appelé. Les gens qui me connaissaient, ils étaient tous persuadés que c'était moi qui écrivais le truc parce que ça ressemblait étrangement à mon humour, quoi. J'adore les tontons flingueurs, tout ce qui est Michel Audiard, tout ça. Donc j'ai grandi là-dedans et j'adore cet humour-là. Et les gens qui me connaissaient étaient persuadés que c'était moi qui écrivais. C'était un peu mon phrasé, donc déjà il a fallu leur faire comprendre et persuader que c'était pas moi. Puis à un moment donné, c'est devenu un petit peu trop porté quand même sur le sexe, sur des histoires de se retrouver à poil, de cocaïne avec Maradona et des conneries comme ça. Là, ça a commencé un petit peu à m'agacer parce que je trouvais ça sympa de faire quelque chose un peu d'humoristique et un peu décalé sur le tennis. Mais je voulais pas que ça me pose quand même des problèmes dans ma vie privée ou ma vie professionnelle, je veux dire. Effectivement, j'ai contacté ces gens-là grâce à vous, Michel, et je leur ai demandé de cibler un peu plus le tennis, d'arrêter forcément me faire passer pour un foireur qui boit de l'alcool et qui se retrouve dans des situations rocambolesques, et un peu plus ciblé sur le tennis. Maintenant... moi, j'y suis pour rien dans ce truc-là.
On y est là, le tir pour vous a été rectifié là.
J'ai lu le truc sur la Coupe Davis, tout ça. Je pense que c'est un peu plus, ça reste drôle, ça reste comme ça. Mais à un moment donné, ça avait été un petit peu trop loin, effectivement.
C'était un peu lourdos, quoi.
Et surtout, ce qui me surprend chaque fois, c'est que même quand je partais en vacances à certains endroits, je retrouvais ça dans le blog. C'est pour ça que tout le monde pensait que c'était moi qui l'écrivais, parce que pas censé savoir qui je fréquente en vacances et où je vais. Donc.
Et à préciser que ces gens-là vous connaissent pas plus que ça. C'était là où était le
Donc ça
la grosse question.
À un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas des amis qui balançaient des infos. Mais disons là, c'est devenu un peu plus soft, un peu plus respectueux, on va dire.
On va peut-être terminer cet entretien avec un petit questionnaire de Proust, comme ça un peu revu et corrigé. C'est des réponses plutôt assez courtes. Si on devait souligner le principal trait de votre caractère, c'est lequel ?
Sensible.
Si vous pouviez changer quelque chose de votre physique, ce serait quoi ?
10 cm de moins.
Ah bon ? Intéressant. Pourquoi ?
Moi, ouais, je pense 1m90, c'est une taille parfaite pour jouer au tennis. Vous gardez quand même une certaine taille assez imposante pour servir, pour tout ça. Et je pense que 10 cm de moins, j'aurais quand même pu bouger encore un peu plus vite sur le terrain.
Et on rentre plus facilement dans son lit aussi, non ?
Ouais, non, ça, c'est vraiment c'est pas quelque chose qui me dérange au quotidien ou dans la vie personnelle. Faire 2 mètres, je trouve ça assez cool.
La qualité que vous préférez chez les autres ?
L'honnêteté.
Qui est-ce que vous auriez voulu apparaître vous-même ?
Qui j'aurais aimé être ?
Oui, à part vous.
Ayrton Senna.
Pourquoi ?
Parce que c'était mon idole absolue du sport automobile.
Votre héros, c'est toujours lui, c'est le même, c'est Ayrton Senna, un héros ?
Dans le sport, j'en ai plusieurs, je veux dire Senna, des mecs comme Michael Jordan, tout ça. Maintenant, quelqu'un que j'admire parce que en ayant arrêté le tennis, j'ai pu passer plus de temps avec lui, je veux dire que c'est mon père, cette faculté, malgré un âge avancé, de rester super... vigoureuse quoi, toujours plein d'énergie, une capacité à s'émerveiller au quotidien de petites choses, alors que ma génération, j'ai l'impression qu'on est blasé assez rapidement de tout, parce qu'on a tout eu assez facilement. Lui qui est né en 39, donc après-guerre, et s'émerveille de petits trucs, je veux dire. Donc mon grand jeu, c'est chaque anniversaire et chaque Noël de lui offrir les derniers gadgets technologiques. Et ça l'éclate parce qu'il passe 4 jours à tout comprendre et comme un gamin. Donc j'adorerais être comme lui en fait.
Vous rêvez de bonheur pour vous ? Le bonheur c'est quoi ?
Le bonheur c'est plein de choses. C'est d'avoir une bonne vie affective, d'avoir aussi une vie professionnelle stimulante. Je parle pas financièrement, je parle stimulante, qu'on soit content de se lever le matin. Je veux dire, il y a tellement de gens qui font un métier sans vraiment avoir du plaisir. Moi j'ai eu la chance de connaître ça avec le tennis, de me lever, de prendre mon pied tous les jours. Pratiquement c'était une passion. Donc c'est un mélange de cette passion professionnelle, d'une vie affective bien remplie, de belles amitiés autour de vous, puis je crois que là on n'est plus très loin.
De bonheur pourrait passer par une famille, une femme, des enfants, Marc ?
Bien sûr, mais je pense que ça fait un tout. Si vous avez que la vie professionnelle, elle peut être magnifique, rentable, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de vie affective, je veux dire... Je vois pas le sens, parce qu'il y a personne avec qui en profiter, vous avez pas de joie, de toutes ces choses-là. Donc, puis si vous êtes avec la famille, puis financièrement et professionnellement ça va pas, vous allez pas être heureux non plus. Donc, si vous avez pas d'amis non plus, je pense que c'est un mélange des trois choses. Et après, ça peut être à des degrés, des pourcentages plus ou moins élevés en fonction de qui vous êtes, mais je pense que c'est quand même un mélange de ces trois facteurs.
Là, vous avez une baguette magique maintenant, vous en faites quoi ?
Une baguette magique ?
Maintenant, là, elle est là.
Et je peux décider tout ?
De tout. À part me faire disparaître parce que j'ai pas fini l'émission, Marc.
J'enlève toute la famine en Afrique. C'est quelque chose qui me tue. J'ai été très tôt en Afrique avec mes parents. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce continent. Et puis effectivement, je veux dire, il y a eu des massacres horribles, il y a eu la guerre au Kosovo, il y a plein de choses comme ça qui sont tragiques dans le monde partout. Mais la famine en Afrique, c'est un truc qui ça dure depuis tellement longtemps et j'ai l'impression que ça va jamais arrêter. Donc si je pouvais, ouais, ce serait ça.
Dans 10 ans, Marc, vous serez où ? Vous serez qui ?
C'est le monsieur en haut qui le sait, c'est pas moi.
Vous avez une devise ? Votre devise, le matin, vous levez, il y a quelque chose qui ressort ?
Non, il n'y a pas de devise. Je suis assez fataliste. Je pars du principe que les choses importantes de ma vie, en tout cas, sont déjà écrites. Donc, comme l'histoire du vol suissaire, je pense que c'était pas mon heure. S'il doit m'arriver quelque chose de bien comme de mauvais, c'est que c'était écrit. Donc je pense que tous les événements marquants d'une vie, je veux dire, que ce soit une rencontre avec votre épouse ou tout ça, c'est, je veux dire, souvent je discute avec des copains, puis on s'aperçoit que le type il est sorti à telle heure du café, qu'il a rencontré une fille, il pouvait sortir 30 secondes plus tard, puis tourner à gauche, tourner à droite, puis il se passait rien. Donc je pense que les événements importants sont prédestinés à être vécus.
L'émission s'appelle Le Défi, ce sera la dernière question précisément, votre prochain défi.
Mon prochain défi, c'est un projet d'un cours de discussion qui pourrait être assez surprenant.
C'est-à-dire ? Là, vous êtes obligé de nous en dire à peine plus. Hein.
Non,
on reste sur notre fin là.
Je peux pas vous en dire plus, mais disons que ça pourrait être un projet précurseur.
Dans le monde de ?
Toujours du tennis.
Merci beaucoup Marc Rosset. Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.